Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce y hace en la radio.
France Inter, le 18-20.
La préparation des Jeux Olympiques de 2022 au Sénégal, pays d'accueil, les JO des 14 à 18 ans. Mais ça veut dire beaucoup parce que c'est la première fois que l'Afrique accueille un événement olympique de cette taille-là. Ça compte, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu au Zimbabwe, aux États-Unis, au Japon. 18h50, le cinéma en VO avec Eva Bétan qui nous revient avec un film russe dont l'actrice a été primée à Cannes en mai dernier. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et cette question, comment l'Europe se sort de cette affaire de Brexit au fond? Justement, on y va. Au Royaume-Uni, entre Brexit, Mexit et grand foutoir, si je puis me permettre, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Nous y voilà donc au jour d'après, après vote au Parlement britannique, un vote dont on pouvait se douter qu'il ne serait pas favorable à Theresa May, mais enfin de là à prendre une claque pareille, c'est peut-être une autre mayonnaise qui ouvre des perspectives inconnues. Bonsoir Jeremy Stubb.
Bonsoir.
Président du Parti conservateur britannique à Paris. Y a une manière de voir, et qui m'a frappé moi combien on a du mal à comprendre finalement ce qui se passe chez vous. Hier, les anti-Brexit étaient contents parce qu'au fond, grâce à ce vote, ils se disent « ah bah il y aura un nouveau vote » et les pro-Brexit étaient contents parce qu'ils espéraient un Brexit dur. Ça prouve que personne ne comprend réellement ce qui va se passer là, maintenant, en fait, au fond.
Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a deux camps avec des vues opposées qui trouvent leur bonheur dans le même résultat. Mais uniquement parce que c'est un résultat provisoire, c'est une absence de résultat. Mmh. Et tout le monde espère autre chose. Le problème, c'est qu'il reste très très peu de temps pour cette autre chose, quelle que soit la porte de sortie, et il faut trouver ça. Et je dirais, c'est Verlaine qui a écrit « De la douceur, de la douceur, de la douceur ». Eh bien là, il faut de la souplesse, de la souplesse, de la souplesse, de la part de tout le monde, et on attend de voir les preuves de cette souplesse.
Alors, Theresa May, qui a été humiliée, est-ce qu'on utilise le mot « d'humilier » quand le vote est si grand? Si je vous pose la question, c'est que malgré tout, d'ici 2 heures, probablement, elle aura sauvé sa tête. Donc là aussi, le plus cohérent, si on est vraiment cohérent, il faut qu'elle s'en aille, Theresa May. Donc pourquoi on n'arrive pas à trouver cette cohérence-là? Au fond, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a tellement pas de pilote qu'on prend on la garde, quoi?
En fait, ceux qui voudraient avoir sa place ne sont pas capables de la prendre.
Mais ni chez les conservateurs, ni chez les travaillistes.
Exactement. Tandis que ceux qui pourraient avoir sa place, n'en veulent pas. Parce que le rôle est tellement difficile. Donc, d'où le problème de cohérence. Elle a sa cohérence parce qu'elle est prête à rester jusqu'au bout. Et je ne vois personne d'autre pour le moment qui puisse jouer ce rôle. Donc voilà le pilote, en quelque sorte, qui reste.
Elle est prête à rester, j'allais dire, à l'anglaise, keep calm and carry on, mais sachant, est-ce qu'elle sait où elle va réellement, Theresa May, si ce n'est qu'elle sert de victime expiatoire, c'est, même elle en a conscience ou pas?
Oui, peut-être, il y a cet élément de victime expiatoire, mais ça, c'est juste une émotion passagère. Là, on attend un résultat concret. Elle a dit hier qu'elle allait consulter les différents membres du Parlement pour voir s'il y a une possible, un assouplissement possible des règles de son accord. La question, c'est vraiment de savoir qui est-ce qu'elle va consulter et qu'est-ce qu'elle va trouver. Est-ce que ce sera suffisant? Parce que là, elle n'a que jusqu'à lundi.
Elle a 3 jours pour faire ça. C'est pas beaucoup.
Ce n'est pas beaucoup. À mon avis, elle ne peut que qu'essayer de gagner du temps.
La porte de l'Europe, si on en croit les déclarations qui sont faites, et notamment celle de Michel Barnier, est définitivement fermée. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que c'est aussi des mots, une guerre psychologique qui est en train de se jouer, et que la porte de quelque chose de renégociable est vaguement ouverte ou pas du tout?
Il y a toujours cette ambiguïté dans les affaires humaines. Est-ce que les gens sont en train de jouer très finement, ou est-ce qu'ils sont tout simplement un peu stupides?
Cette ambiguïté,
oui, cette ambiguïté reste. On verra très vite quand même quel est le résultat parce que on a si peu de temps avant le 29 mars. Et tout changement nécessitera un travail considérable d'ici là.
Ah ben, vous m'étonnez, mais Boris Johnson, par exemple, qui est quand même l'un des artisans du Brexit, qui est un Brexiteur hardcore, j'allais dire, il dit « ce résultat est un mandat massif pour renégocier ». Mais pardon, mais d'où il sort que ce résultat est un mandat massif pour renégocier ? Comment il peut imaginer que c'est vraiment un mandat massif pour renégocier ?
Mais, il faut comprendre le point de vue de ces gens-là, ces Brexiteurs plutôt durs, c'est qu'ils ont assisté à cette négociation de manière impuissante. Ils ont dit dès le début que ça ne leur plaisait pas, donc ils attendent leur tour pour pouvoir faire mieux. Je ne crois pas que ce soit vraiment possible de faire mieux, mais eux, ils le croient. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe. Est-ce que la porte est ouverte ou fermée? Là, on citerait bien sûr Musset. Pour le plaisir, une porte est ouverte ou fermée. On va le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la position de l'Europe, c'est de dire il faut que les Britanniques se décident. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se décident sur quelque chose qui plaise à l'Europe. C'est ça le problème. Et l'Europe a dit il faut le filet de secours, le backstop. Et c'est le backstop qui crée tous les problèmes, au fond.
Pardon, allez-y.
La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables, les Européens, de bouger du côté du backstop?
Parce que vous, vous dites, est-ce que les Européens seront capables de bouger? Donc, en gros, la balle est dans le camp des Européens. Les Européens, ce qu'ils vous disent depuis hier, c'est la balle est dans le camp des Britanniques.
Oui, le problème, c'est de dire que la balle est dans le camp d'un groupe ou de l'autre. Le bal est dans le camp de tous ces politiciens, tous ensemble. Ils ne peuvent pas se renvoyer la balle. C'est ça le grand problème. Et si vous voulez, pour analyser de manière un peu plus subtilement, le problème de Theresa May, c'est que en Grande-Bretagne, c'est le Parlement qui a pris le pouvoir sur le gouvernement, parce que le gouvernement n'a plus de majorité absolue. De l'autre côté, Madame May doit trouver un accord avec les Européens. Donc, elle se voit un peu réduite aujourd'hui à une sorte d'intermédiaire entre les deux. Ce qui est un rôle extrêmement difficile à jouer et qui, certainement, ne lui plaît pas.
Ce qui arrangerait aujourd'hui, parce qu'effectivement, 3 jours pour essayer de trouver une porte de sortie, c'est un laps de temps extrêmement réduit. Qu'est-ce qui arrangerait mieux en ce moment les Britanniques et Theresa May? Est-ce que c'est de reculer la date de sortie? Ce qui ressemble quand même à reculer pour mieux sauter, au fond, tout simplement. Mais est-ce que ça, c'est la porte de sortie préférée pour l'instant de Theresa May, selon vous, chez les conservateurs dont vous êtes? Reculer la sortie pour se redonner une marge de manœuvre ou pas? Ou puisqu'on y est, il va falloir trancher dans le vif.
Oui, je pense que ce soit pour Theresa May ou pour les Européens, il y a des concessions qu'ils ne veulent pas faire, mais qu'ils sont obligés de faire tôt ou tard, et plutôt tôt. Donc, Theresa May, elle nie toute volonté de demander un report de la date de sortie. Il me semble que c'est la seule solution en ce moment. Et il y aurait probablement une majorité au Parlement pour cette solution. Le problème avec cette solution, c'est qu'il faudra du temps sur le plan juridique, législatif, pour modifier l'acte de loi qui a lancé l'article 50. Donc on a peu de temps.
Et entre-temps, il va y avoir des élections européennes. Qu'est-ce qui se passe si on recule la date du Brexit? Est-ce que vous participez du coup aux élections européennes ou pas? Ou est-ce qu'on se dit que vous les ferez plus tard? Enfin, je veux dire, c'est complètement inédit. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Voilà, un problème inédit, une solution inédite. On a beaucoup cité ce problème parce que tout délai, bon, il faut que ça dure un certain temps. Les élections arrivent très vite en Europe. Est-ce qu'il y aura des élections pour des eurodéputés au Royaume-Uni? Je pense que ça n'a aucun sens, même si ça créerait une anomalie juridique. Mais on peut vivre avec quelques anomalies. On l'a déjà fait dans le passé.
Ben, tiens, au moment où on se parle, c'est le Times de Londres qui écrit « L'Union européenne est prête à reporter à 2020 la date du Brexit ». Encore une fois, sourcé là, pour l'instant, du Times. Ce qui est un peu ce que vous disiez, mais 2020, c'est loin. On recule de 2 ans. Quand on recule de 2 ans, alors que ça fait 1 an et demi qu'on négocie, est-ce que ça veut dire qu'au fond, on n'y va pas? Est-ce qu'au fond de vous, Jeremy Stubb, il vous arrive de vous dire, on va rester? Au fond, au bout du bout, on va rester?
C'est toujours une possibilité. c'est toujours une possibilité. Il faudrait quand même un changement majeur, vraiment visible, dans l'opinion publique. On n'a pas encore vu un tel changement.
Vous croyez? Parce que les sondages ont l'air de dire que la population...
Oui, il y a quelques...
On n'est pas à 60-40, mais enfin, ça bouge.
Il y a quelques fluctuations. Il faudrait absolument être au-delà de 60. Il faudrait... Il faut que ce soit vraiment clair, parce que pour justifier le renversement d'une décision par référendum, il faut plus que quelques points de pourcentage.
Regardez, même Nigel Farage disait hier soir ou ce matin, je ne sais plus, qu'un nouveau référendum était quasiment dans les tuyaux, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de la part d'un gars comme Nigel Farage, qui, encore une fois, comme Boris Johnson, a été, plus encore que Johnson, peut-être l'artisan du Brexit? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire quand il dit des choses pareilles, lui?
C'est très intéressant parce qu'il a, en fait, il a une habitude de dire des choses très pessimistes de son point de vue. À la veille du référendum, il a dit « on a perdu,
exactement,
il a gagné ».
Il l'a dit à 11h du soir.
Voilà. Après le référendum, il a dit « oh, on va avoir Norvège ». Et en fait, le gouvernement a essayé de faire plus. Maintenant, il dit « oh, c'est un autre référendum ». Peut-être qu'il se montre pessimiste juste pour encourager les gens, je ne sais pas.
Donc il prêche le faux pour savoir le vrai là-dessus, Nigel Farage.
Peut-être, mais je pour plusieurs raisons, je ne le trouve pas comme une sorte d'oracle fiable. À cet égard-là.
Tout le monde a noté, et ce recul à 2020 finalement dit la même chose, tout le monde a noté aujourd'hui que les marchés financiers étaient restés extrêmement zen. La livre a même augmenté. La place parisienne, pareil, est restée extrêmement zen. Et la lecture, c'est que finalement, les places financières se disent « non mais c'est bon, ils n'y vont pas, en fait ». Est-ce qu'au fond, c'est pas un baromètre qui est intéressant, les places financières? Ou est-ce que, là aussi, on pêche par excès d'optimisme parce qu'on veut, on veut tellement que ça se fasse pas, au fond, de leur point de vue, qu'on fait en sorte que les marchés sont selon cette idée-là, en fait?
Voilà. Mais les marchés sont un bon baromètre de l'état d'esprit des marchés. Mais pas forcément pour nous autres. Et il est vrai que ce que craignent les marchés, je pense, c'est la sortie sans accord. Et pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'une sortie sans accord, ce serait le désastre absolu.
Jeremy Stubb, vous qui êtes... vous avez voté d'abord ou pas? Non, vous n'êtes pas parlementaire, donc vous n'avez pas voté à ce moment-là. Mais quand vous voyez, vous, les conservateurs et les travaillistes, quand vous voyez l'état de la classe politique anglaise, est-ce que vous avez le sentiment qu'on en sort grandi de cet épisode-là, quand on est dans la classe politique anglaise? Et surtout, est-ce que pour le mode de fonctionnement même, en fait, de la démocratie britannique, est-ce qu'il y aura un avant et un après cet épisode qui, aux yeux de tous, est vraiment un épisode calamiteux?
Je pense que très peu de personnes en sortent grandies de ça. Curieusement, Theresa May conserve une certaine dimension de grandeur, en quelque sorte, juste parce que, et comme l'a dit un de ses opposants les plus farouches, elle a ce sens du devoir. Mmh. Elle continue. En même temps, je dirais que là, c'est le moment pour elle de faire preuve de souplesse. Et je reviens à ce mot parce que dans les quelques jours à venir, on va voir justement la qualité de ces politiciens des deux côtés de la Manche. Est-ce qu'ils sont capables de souplesse? Pour le moment, on n'a pas de raison de le croire, mais je suis prêt à être agréablement surpris.
Écoutez, souplesse, comme vous dites, on verra bien comment les choses se dessinent. Pour l'instant, en matière de danse, Theresa May ne nous a pas montré beaucoup de souplesse, mais enfin, allez savoir en matière de négociation politique ce que ça peut vouloir dire.
Quelle vanne.
Merci beaucoup, Jeremy Stubb. À très bientôt.
Merci.
Donc, dans trois jours, allez savoir.
Oui. France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde, ça se passe à Dakar avec la préparation des JO 2022, les JO des 14-18 ans. C'est important parce que c'est la première fois que l'Afrique accueille un événement olympique de cet ordre-là. Et ce sera l'escale reportage sous les radars Amélie Perrier avec le prix de l'essence au Zimbabwe, avec un basketteur turc à New York et un sumo à la retraite au Japon. Le cinéma en VO, Eva Béton, bonsoir.
Bonsoir.
Et ben bon retour dans Un jour dans le monde, Eva, avec un film russe au programme de ce soir.
Et une héroïne kirghize, Aïka perdue à Moscou, histoire de survie et prouesse cinématographique dans la neige.
On voit ça dans un instant. Le monde à l'envers. Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Pour poursuivre ce qu'on disait à l'instant avec Jeremy Stubb, Jean-Marc, le Brexit et l'Europe, attention à ce que nous croyons gagner, nous les Européens.
C'est le bazar à Londres, mais évitons de faire la leçon aux Britanniques. Nous traversons la même crise que de la démocratie représentative.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis avec Linda Ronstadt. Dites-moi, it's so easy. Ronstadt, dites-moi, j'ai eu cet album acheté sur le tard. Je suis pas sûr que ça joue en faveur de ma réputation. Ah, Jean-Marc Four aussi, super.
Ouais.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachevo Papillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sur Radar et Amélie Perrier. Amélie, on parle beaucoup de RDC, on parle beaucoup de Côte d'Ivoire en ce moment avec Laurent Gbagbo. Le Zimbabwe passe totalement sous les radars.
Ouais, le pays se soulève en ce moment à cause de la hausse des prix des carburants. Ça vous rappelle quelque chose? Alors le prix du litre a plus que doublé ce week-end et dans un pays en crise, c'est une charge que beaucoup ne peuvent pas supporter. Les Zimbabwéens sont sortis dans la rue pour manifester depuis lundi à l'appel du principal syndicat. Écoutez celui-ci près d'un barrage sur une route.
Things are getting worse.
Alors il dit les choses sont de pire en pire, on cherche simplement de l'essence abordable, cette hausse ça va me tuer. Alors tous ces gens qui descendent dans la rue, les manifestations, c'est ça, plus personne ne reste à la maison maintenant. Hier les manifestations ont été durement réprimées, au moins 3 morts, de nombreux blessés, plus de 200 arrestations. Et ce matin c'est une figure de la société civile qui a été interpellée chez lui, le pasteur Evan Mawarire, il soutient la grève. Incitation à la violence lui reprocherait le pouvoir, car c'est une mise en cause avant tout du président Mnangagwa, au pouvoir depuis un peu plus d'un an, depuis le coup d'état qui a renversé le patriarche Robert Mugabe et une élection contestée. Ses promesses de tourner la page Mugabe ne sont pas tenues. Le pays est plongé dans une grave crise économique et financière depuis près de 20 ans et voit sa situation encore s'aggraver ces derniers mois avec des pénuries des produits de base, dont le pétrole. Le chef de l'État est pour l'instant en voyage en Russie et il est attendu ensuite à Davos, au Forum économique mondial. Il a demandé aujourd'hui à ses concitoyens de la patience pour que ces réformes fonctionnent. C'est un pays en ébullition qu'il risque de retrouver.
Le président turc, lui, s'est trouvé une nouvelle cible aux États-Unis.
C'est un basketteur turc de l'équipe des New York Knicks.
Cantor slides in and finishes with the right hand.
Voilà, Enes Kanter, pivot de 26 ans, expatrié aux États-Unis donc, et soutien affiché du prédicateur Fethullah Gulen, la bête noire du président Erdogan. Il l'accuse d'avoir fomenté le coup d'État manqué contre lui en 2016. Alors depuis, des dizaines de milliers de policiers, d'universitaires, de journalistes ont été soit limogés, soit arrêtés. Le basketteur Enes Kanter, lui, n'a eu de cesse de dénoncer ce régime, quitte à en faire les frais. En mai 2017, de retour d'un match de charité en Indonésie, il fait escale en Roumanie et se retrouve bloqué à l'aéroport. Passeport confisqué, il accuse Erdogan. Celui qui est derrière tout ça, dit-il, c'est Recep Tayyip Erdogan, le président de Turquie. Et vous savez, c'est lui qui a attaqué les gens à Washington. Il fait référence aux gardes du corps d'Erdogan qui ont agressé des opposants turcs devant la Maison Blanche quelques jours plus tôt. C'est un type très, très mauvais, dit le sportif. C'est un dictateur, c'est le Hitler de notre siècle. Alors voilà, l'hostilité ne date pas d'hier, il ne s'est pas calmé. Ankara vient de s'adresser à Interpol pour faire arrêter le basketteur. Enes Kanter, pour sa part, annule sa venue à un match à Londres prévu demain soir. Il craint d'être assassiné par des partisans d'Erdogan, mais il le dit dans de nombreuses interviews, il n'arrêtera pas de parler, de dire tout le mal qu'il pense du régime turc.
Allez, un autre genre de sportif qui fait ses adieux, ça se passe au Japon.
Kiseno Sato annonce aujourd'hui la fin de sa carrière. Alors Kiseno Sato, il était le seul Yokozuna encore en activité au Japon, vous savez ce que c'est ?
Mais non.
C'est le seul grand champion de sumo. Immense émotion dans le pays, car vous l'entendez, le sport déchaîne les passions, mais aussi parce que Kiseno Sato occupe une place particulière dans le panthéon des sumo. Il était le premier natif du Japon à accéder à ce rang suprême de Yokozuna depuis plus de 20 ans. Mais à 32 ans, sa fin de carrière est un peu douloureuse, hein. Une blessure, pas mal de forfaits, et là, 3 défaites d'affilée lors du tournoi du Nouvel An. Retiré des doyo ou dojo, hein, on dit les deux, le terrain de lutte, oui, des sumo. Il laisse seul au sommet de la discipline 2 sumo de Mongolie. Et les deux seuls porteurs du titre de Yokozuna dans le monde. Et le Japon a doublement des raisons de pleurer ce soir.
Et voilà qu'on a appris plein de choses. Merci beaucoup, Amélie Perrier. On se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est donc à Dakar que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, à Dakar où se tiendront les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Et c'est quelque chose parce que c'est le premier événement olympique qui se déroulera en Afrique. On parle des épreuves réservées aux jeunes de 14 à 18 ans. Bonsoir William Lelesseux.
Bonsoir Fabienne.
À Dakar, William, pour un jour dans le monde. La préparation, elle commence dès maintenant avec l'entraînement d'une future génération d'athlètes. Vous avez suivi la formation de jeunes basketteurs dans la capitale.
Un grand terrain, deux paniers, un marquage au sol flambant neuf, le centre d'entraînement Malik Gaye, situé dans un quartier populaire, reçoit des jeunes tous les après-midi après les cours. T-shirt blanc aux couleurs du club, Christine Mendy, 11 ans, a commencé le basket il y a quelques mois. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, elle y pense.
J'aime aussi comme ça se passe dans mon pays et que c'est aussi mes camarades qui font ça. Ça me fait plaisir. C'est notre coach qui nous en parle. Je veux participer aussi.
Je me déplace, il conteste. Il fait la passe là-bas. Va contester.
L'entraîneur, c'est Malik Fall. En tenue orange, l'ancien joueur professionnel s'est reconverti. Se déplace autour du terrain, interpelle ses élèves un par un.
Faites la passe à l'intérieur.
Ça nous fera plaisir de voir un de nos jeunes participer à ces compétitions. C'est pourquoi on les prépare aussi en vue de ces Jeux Olympiques 2022. Ça va augmenter le goût de la performance parce que chaque enfant rêve de participer à ces compétitions. On vient juste de démarrer les activités. On utilise les exercices pour travailler les capacités coordinatives.
C'est quoi les capacités coordinatives ?
C'est certains mouvements qui permettent à l'enfant de gagner beaucoup de souplesse, de coordination, ça leur permet d'être meilleur.
Sur le banc, à l'ombre, Bruno Sankara observe les progrès des jeunes joueurs. Entraîneur lui aussi, il est chargé de repérer les talents du basket de demain. Ce travail de repérage, il le fait depuis des années déjà. Avec un regret, ses meilleurs joueurs sont pour la plupart partis en Europe, privant le Sénégal de ses champions.
Des fois, c'est les joueurs eux-mêmes qui veulent partir. Parce que le manque d'investissement aussi, ça les pénalise un peu. Donc s'ils voient un championnat plus relevé, ils vont partir sans hésiter. Et on voit le résultat après. Bon, les clubs sont affaiblis et le niveau du championnat aussi. On leur demande aussi de rester ici, que bon, il y a de l'avenir dans le sport. S'ils sont toujours là, bon, la génération qui vient après, ce sera plus facile de s'adapter. Et c'est une très bonne chose. Et les sportifs, en voyant cela, peut-être ils vont plus s'investir dans leur pays. Ça va faire la promotion aussi du basket sénégalais, en particulier et du basket africain en général. Donc ça pourra aider aussi ces jeunes à être vus dans le monde et que les autres pays aussi puissent voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici au Sénégal.
C'est la fin du cours. Il faut terminer par le cri de ralliement.
1, 2, 3, 4.
La directrice du centre, Fatima Tassi, s'est elle aussi mise à l'heure de ces Jeux Olympiques de la jeunesse.
Du coup, quand on a dit que le Sénégal a décroché les Jeux Olympiques, j'ai dit « Ah, mon cahier, je le sors !»
Vous aviez un cahier Jeux Olympiques ?
Oui, j'avais un cahier Jeux Olympiques, voilà, que je n'avais pas utilisé. Donc du coup, maintenant, tu as vu. Ça, ça a daté quand même. Bleu, blanc, rouge, hein, je ne sais pas. C'est beaucoup plus bleu, blanc, rouge que vert, jaune, rouge que ça. On aurait pu aussi rajouter les moyens de infrastructure, formation et communication.
Avec son cahier aux couleurs des JO, elle souhaite que l'événement permette le développement du sport professionnel dans tout le pays et pas seulement à Dakar.
Je pense que vraiment faire en sorte que toute la population s'approprie et se sentent concernés par l'organisation de ces Jeux Olympiques. Parce qu'on pourra réussir l'événement au moment où toute la population va adhérer. Pas seulement au niveau des grandes villes, même au niveau des coins les plus reculés, aller vers ces terroirs-là pour dénicher des talents, faire en sorte que tout le monde bouge, se sente et vibre au son des Jeux Olympiques. C'est comme ça que nous voyons les choses en tant que militants, sportifs et vraiment engagés dans la cause et la bonne cause du sport.
Direction l'arène nationale de lutte. La nouvelle infrastructure a été financée par des fonds publics chinois. Le Sénégal peut aussi compter sur sa Dakar Arena, à quelques kilomètres de la ville. Sa construction et son inauguration ont été cruciales pour la candidature du pays auprès du Comité international olympique, le CIO. Le tout sera relié grâce à un train encore en cours de construction. Pour le président Macky Sall, il fallait absolument obtenir ces JO de la jeunesse. C'est un enjeu pour le président sortant à quelques semaines de l'élection présidentielle de février. Son ministre des Sports, Matarba, visite l'arène de lutte, un grand bâtiment coloré près de Pikine, en banlieue. Mais il reste des infrastructures à construire et des équipes à former. Le Sénégal a-t-il les moyens de ses ambitions ?
On a des amis et des partenaires. On a le secteur privé, on a tout le monde. Et j'avoue que le Sénégal aujourd'hui organise ces Jeux Olympiques, mais on le fait aussi pour tout le continent africain. Nous réglons définitivement aussi l'injustice qu'il y avait au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques. Parce que ces 5 anneaux, l'Afrique n'a jamais organisé. Et ça, c'est à retenir, c'est une première dans l'attribution des Jeux Olympiques de la jeunesse.
Antoine Gocci est le directeur associé des Jeux Olympiques de la jeunesse, en visite à Dakar.
Je pense que là, le Sénégal, en l'occurrence avec ces Jeux de la jeunesse, a une responsabilité assez forte pour l'ensemble du continent, c'est-à-dire de démontrer qu'effectivement, le continent est capable d'accueillir des événements internationaux et les Jeux de la jeunesse accueilleront plus de 206 pays.
Le budget prévu pour l'édition de 2022 au Sénégal est de 130 millions d'euros. Une grande partie sera financée par l'État du Sénégal. Pour le reste, il faudra compter sur des partenaires privés. Eux n'ont pas encore été trouvés.
William Leleceux à Dakar pour le reportage et pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Le Dandy Warhol est sur France Inter. Be alright. Be All Right de Dandy Warhol, c'est sur la playlist de France Inter. 3,
2, 1, moteur.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, Eva Bétan, on est content de vous retrouver
mais
dans
aussi,
Un jour
infiniment.
Dans le monde. Voilà, vous nous revenez égal à vous-même,
oui.
Avec un film qui s'appelle Aïka, de oui. Sergueï Dvortsevoï, c'est ça ? C'est
lui-même.
À peu près pas mal, voilà. Film russe dont l'héroïne s'appelle Aïka, c'est une
et elle
jeune...
est kirghize.
Elle est kirghize, ben voilà. C'est ça qui compte.
Bonne
annonce d'abord, on se retrouve juste après.
Мен Айкамын. Мен сізге ақша бере алмаймын. Бере беріңізші.
Серьезно, адамдармен бір ойнашып көрейін одасын.
Faisons connaissance avec Aïka.
Nous faisons connaissance avec elle dans un hôpital assez décati de Moscou où elle vient d'accoucher et elle se sauve en abandonnant son enfant. La caméra colle à elle, pas d'explication, pas d'excuse. Regardez, vivez avec elle. C'est un film de survie. Elle va travailler quelques jours dans un atelier atroce où on plume les poulets. Vous êtes dégoûté du poulet pour longtemps. Elle va glaner quelques jours de travail chez un vétérinaire. Quand on survit, on n'a pas le temps d'être aimable. On peut trahir ou être trahi par l'autre, celle d'à côté qui a besoin d'elle aussi de survivre.
Et tout ça est parti partie d'un article de journal.
Oui, le réalisateur a lu qu'en 2010, 248 femmes kirghizes ont abandonné leur enfant dans des maternités de Moscou parce qu'elles ne pouvaient pas s'en occuper. On finit par comprendre dans le film que Aïka vient du Kirghizistan, une république de l'ex-URSS, et qu'elle est clandestine en Russie. Alors là, je voudrais faire une incidente. Je vous explique une chose que le film n'explique pas et que j'ai voulu comprendre. J'ai demandé à Joël Chaperon, qui est responsable à Unifrance des Pays de l'Est, c'est un des meilleurs spécialistes, ce que c'était que ces, entre guillemets, migrants qui viennent des ex-républiques, des républiques de l'ancienne URSS. Schématiquement, les conditions pour eux, pour ces migrants-là, sont plus souples, par exemple, que pour un migrant qui arrive chez nous. On peut circuler en Russie, on peut même s'y installer sous certaines conditions. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de clandestins. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, comme Aïka, on dort chez un marchand de sommeil. Le logement n'est pas conforme aux normes. Donc, il ne vous enregistre pas. Donc, vous n'avez pas de permis de résidence. Donc, vous êtes clandestine. Il y aurait 1,5 million de ces migrants qui travaillent légalement en Russie et le double, près de 3 millions illégalement. Je voudrais revenir au film à présent parce que c'est une prouesse. Tout le film est donc collé à cette héroïne, on court avec elle, il se passe sous la neige qui est un acteur central du film. Chère neige, maudite neige, c'est en partie à cause d'elle que le réalisateur a mis 6 ans à faire son film. Il tourne, il retourne sans arrêt des scènes. Le film est en compétition à Cannes. Entre le moment où le sélectionneur l'a vu et le moment où il a été présenté, il a encore retourné la fin du film. Sergei Drobitsoy.
Нет, вы знаете, мы, я никогда ничего...
Je n'ai rien planifié à l'avance. Au départ, il était question que l'histoire se déroule pendant le printemps au soleil. Mais finalement, nous avons commencé le tournage en hiver. Et dès les premières scènes que nous avons tournées dans la neige, nous avons compris qu'il fallait continuer dans les mêmes conditions climatiques. C'était l'idée de mon chef opérateur, et on l'a payé cher. On a dû tourner pendant des années à cause de cette idée, que j'aime beaucoup. Et il faut savoir que nous avons une manière de travailler très particulière. C'est en quelque sorte un laboratoire de création. Dans ce laboratoire, il y a un arbre qui pousse, qu'on appelle le fil. Donc on invente au fur et à mesure. On arrose l'arbre et on ne sait pas jusqu'où il va pousser et ce qu'il va donner. Et voilà que cette neige est apparue et a commencé à nous dicter cette histoire. Mon chef opérateur me disait, la neige, c'est Shakespeare. On a dû faire entrer Shakespeare dans notre film.
La neige, c'est Shakespeare. Formidable.
C'est un réalisateur incroyable. Il avait fait auparavant un film formidable qui s'appelait Tulpan.
Alors,
tout autre genre.
En attendant, l'actrice principale de ce film a eu le prix d'interprétation à Cannes.
Oui, elle l'a mérité. Elle s'appelle Samal Yeslyamova. Elle joue une kirghize, mais elle-même est kazakh. Son personnage vit donc, vous l'avez compris, des choses très dures. Vaillante Aïka et vaillante Samal. Sergueï, donc toujours, Dvortsevoy, je l'ai bien dit cette fois-ci.
А потому что всегда, когда мы историю двигали дальше и обсуждали с актерами,
à chaque fois qu'on s'arrêtait pendant le tournage, on se posait des questions тут ensemble. Comment cette femme, après une grossesse et un accouchement, peut subir тout cela? Comment peut-elle survivre? Mon personnage s'appelle Aïka. Quand j'ai pensé à elle, je l'appelais une Aïka de fer.
Железная Айка.
Voilà, propos recueillis lors de sa conférence de presse à Cannes. Vous voyez que le cinéma n'est pas toujours un jeu d'enfant.
Et ça s'appelle Aïka,
tout simplement.
Signé Sergueï Dvortsevoy.
Lui-même.
Voilà, lui-même. Mais ça sort aujourd'hui, bien sûr. Eva Bétan, merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'incertitude politique continue à Londres. On en parlait à l'instant. On va en reparler évidemment à 19h. Hier, le plan de Theresa May a donc été massivement rejeté par le Parlement. Ce soir, le même Parlement va renouveler la confiance à la Première Ministre. En face, l'Europe paraît cohérente et paraît unie. Mais pour vous, elle serait bien inspirée de balayer aussi devant sa porte. C'est ce que révèle aussi cette crise et c'est votre Monde à l'envers.
Disons-le tout de go quand même, cette cacophonie britannique est pathétique et consternante, et je m'autorise à le dire parce que j'ai un penchant bienveillant pour nos voisins d'outre-Manche. Mais là, franchement, cette incapacité à se mettre d'accord, cette incohérence politique, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en face, l'Europe, par contraste, fait plutôt bonne figure. Primo, elle continue comme depuis le début sur ce dossier du Brexit d'avancer unie. L'Union européenne est pourtant divisée, on le sait, sur plein de sujets. Mais là-dessus, elle avance en rang serré, cohérente, pour défendre ses lignes rouges sur la frontière irlandaise, sur les normes sociales, l'union douanière, etc. Secondo, ce débat démontre que l'Union européenne est bien réelle, que l'intégration est forte, qu'elle simplifie nos vies sur de nombreux sujets. Et c'est pour ça qu'en sortir, c'est extrêmement compliqué, voire quasi impossible, et les Britanniques sont en train de l'apprendre à leurs dépens. En un sens, toute cette cacophonie sur le Brexit est donc une publicité pour l'Europe. La quitter, c'est difficile, c'est douloureux. Et d'ailleurs, c'est très révélateur. Même les gouvernements européens les plus nationalistes et les plus populistes du continent ne souhaitent pas voir leur pays sortir de l'Union. Donc la crise britannique donne par miroir inversé le sentiment d'une force européenne. Mais il y a un très gros mais.
Alors vous voulez dire qu'en cas d'absence d'accord, il va y avoir des effets en chaîne pour l'économie européenne?
Oui, ça c'est évident. En cas de no deal, il y aura une zone de turbulence économique sur tout un tas de sujets. Les transports, les mouvements de personnes, les services, la sécurité, tout. Et surtout, ça va bien au-delà. Le risque, c'est l'aveuglement. Regardez cette cacophonie britannique avec condescendance. C'est leur truc à eux qui se débrouillent. En fait, non, c'est pas uniquement leur truc à eux. Ce qui leur arrive, c'est ce qui nous arrive à nous aussi, Français, Italiens, Allemands, Américains. C'est une crise majeure de la démocratie occidentale dite représentative. Reprenons. Quel est le sujet aujourd'hui à Londres? C'est en résumé, qui est légitime pour décider? Le référendum populaire qui a enclenché le Brexit? Le Premier ministre qui présente un plan? Le Parlement qui refuse ce plan mais qui n'en a pas d'autre? Les sondages qui laissent penser aujourd'hui à un rejet du Brexit? Les réseaux sociaux qui ont alimenté tous les fantasmes sur l'Europe? Qui est légitime? Et qui peut dégager un compromis, un consensus acceptable? Même dans cette vieille démocratie britannique, la réponse est plus personne. Résultat, cacophonie totale. Le hic, c'est que nous n'avons pas de leçons à donner à nos voisins. En France, la crise des Gilets jaunes soulève la même question. Qui est légitime? Le président élu au suffrage universel? Le Parlement? Les maires? Le référendum à tout va? Les réseaux sociaux? Plus personne n'est d'accord. Qui est légitime en Italie, où l'homme fort, c'est pas le chef du premier parti, non? C'est le leader le plus actif sur les réseaux sociaux, Matteo Salvini. Qui est légitime en Allemagne, où la chancelière ne contrôle même plus son propre parti? Qui est légitime aux États-Unis, où le président élu insupporte la moitié de la population? Dans ces pays où il y a quand même des régimes politiques pourtant très variés, parlementaires, présidentiels, fédérales, le même problème, il n'y a plus de dépositaire évident de la légitimité démocratique et il y a une telle fragmentation des sociétés que le compromis devient impossible.
Donc, on fait quoi?
Alors si on en revient au Brexit, plus modestement, j'allais dire, la meilleure option pour l'Europe, c'est quand même de chercher une nouvelle fois du compromis. Peut-être accepter un report de la date limite du 29 mars, tendre la main malgré tout, surtout ne pas traiter Londres avec mépris, garder la porte ouverte en espérant qu'à un moment donné, la classe politique britannique va finir par se ressaisir pour accepter enfin un deal. Sinon, on pourrait entrer en terre inconnue. C'est cette terre où l'incapacité à se parler et à s'entendre peut sceller en fait la fin de la démocratie libérale, où le choix de l'homme fort et de l'autoritarisme devient, aux yeux de beaucoup, préférable parce que plus efficace. C'est ce moment où, pour citer le philosophe italien Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, ce moment de clair-obscur où, écrivait Gramsci, surgissent les monstres.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve demain le 18-20, la suite c'est Le Téléphone sonne et puis juste avant le journal de Sébastien Paour. Merci de nous écouter.